Samantha Lakin, chercheuse dans les domaines de la sécurité humaine, de la justice internationale et des affaires africaines. Et notre troisième participant, Louis Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine et directeur de la chaîne de télévision New World Economy à Lomé, au Togo. Souleymane Baldo, pourquoi cette guerre a-t-elle éclaté au Soudan et pourquoi se poursuit-elle avec autant de brutalité?
C'est une guerre pour la conquête du pouvoir qui ouvre la porte à la monopolisation des denrées naturelles, des revenus de l'État pour les forces qui sont en combat, c'est-à-dire l'armée soudanaise, les forces armées du Soudan, et l'armée parallèle créée sous le régime de Bachir pendant depuis 2003 jusqu'à la chute de ce régime en 2019, les forces d'intervention rapide. Et donc, ce n'est pas, disons, l'ambition personnelle, mais c'est tout un complexe de corruption étatique, institutionnelle, qui soutient d'un côté l'armée et de l'autre côté soutient les forces d'intervention rapide pour s'emparer, privatiser les ressources naturelles du pays pour le nombre très limité des élites qui veulent accéder au pouvoir et donc avoir accès à toutes ces ressources financières et économiques. C'est ça l'essentiel de ce combat.
Louis Kemayou, ce conflit soudanais a-t-il déjà affecté les pays voisins? Risque-t-il de déstabiliser davantage la région de la Corne de l'Afrique?
Oui, on ne peut pas sous-estimer l'ampleur de ce qui se passe aujourd'hui au Soudan, ne serait-ce qu'au regard de la situation en Éthiopie et par rapport également au rapport entre l'Éthiopie et l'Égypte. Le Soudan a un rôle très important à jouer par rapport à cela. Et si maintenant on prend la situation sécuritaire de façon générale dans la Corne de l'Afrique, c'est quand même quelque chose de préoccupant. On a la Somalie aujourd'hui qui est un non-État, on a les Chebab qui sévissent, on a l'insécurité en RDC, on a une situation dans les autres pays, notamment au Soudan du Sud, qui n'est pas très florissante, et il ne relève même pas la situation de l'Érythrée, qui est également très préoccupante. Cela fait qu'on a aujourd'hui un faisceau de situations conflictuelles très larges sur lequel la communauté internationale, à commencer par l'Union africaine, qui est basée à Addis Abeba en Éthiopie, n'a aucune prise. Et le Soudan du Sud, les autorités soudanaises actuelles ont repoussé l'offre de l'IGAD qui invitait à un dialogue inter-soudanais pour mettre fin à la crise. Et donc, aujourd'hui, si tous les partenaires multilatéraux sont exclus, si ce sont les partenaires bilatéraux et surtout les marchands d'armes qui tirent le plus grand bénéfice de la situation, il est difficile d'être optimiste quant à une issue favorable de cette crise qui avait commencé comme un renversement d'un dictateur et qui se termine finalement comme une guerre de succession qui ne s'arrêtera jamais.
Samantha Lakin, comment la communauté internationale a-t-elle réagi à cette escalade et la réponse est-elle adéquate?
Oui, merci pour la question. Alors, moi je pense que il y avait beaucoup des choses des internationaux. La communauté internationale a essayé les sanctions économiques, les négociations régionales et aussi internationales, aussi sécuriser les spécifiquement pendant la fête de Ramadan et aussi aussi le passage de l'aide humanitaire. Mais malgré la situation en Soudan, c'est pas nouveau et c'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'on a eu déjà. Et aussi malheureusement la communauté internationale, je pense qu'il n'y a pas la volonté politique. Alors, c'est pas que cette situation s'est oubliée, c'est bien documenté. Il y a beaucoup de rendez-vous, etc. Mais c'est pas
Un manque de volonté politique, d'après vous. Souleymane Balde, quels sont les principaux acteurs, n'est-ce pas, et étrangers accusés de soutenir les belligérants au Soudan? Que signifie leur implication dans cette guerre et que faire contre de tels appuis aux deux généraux rivaux?
C'est le conflit du Soudan est bien sûr, comme l'a montré les collègues, c'est un conflit sous-régional. Et donc ça intéresse en particulier les pays du Golfe arabe. On voit les Émirats arabes unis soutenir les forces d'intervention rapide, c'est-à-dire l'armée parallèle de la guerre à l'armée nationale. D'un côté, les autres pays de la région, comme l'Égypte, ils sont intéressés dans la survie de l'armée nationale soudanaise comme une institution étatique. Et donc, il y a un soutien que l'Égypte, donne à l'armée soudanaise, mais ce soutien-là ne s'est pas traduit par une intervention directe, massive, comme c'était le cas avec les Émirats arabes unis, en donnant à l'armée soudanaise, par exemple, des armements, des munitions, et ainsi de suite. La Russie joue un certain rôle, l'Ukraine et l'Ukraine aussi soutiennent et font leur guerre, de la guerre de l'Ukraine. Il y a des répercussions, des extensions au Soudan, dans la mesure où des forces spéciales ukrainiennes démontré à soutenir l'armée soudanaise dans des opérations spécialisées, surtout dans l'usage des drones contre les forces d'intervention rapide. Je peux ajouter une surdimension, ce n'est pas seulement la Corne et l'Est de l'Afrique qui sont menacés pour cette guerre qui se déroule au Soudan, c'est aussi la région du Sahel. Il y a des milliers de gens sahéliens de Tchad et de Niger qui se sont rejoints par liens ethniques et tribales aux forces d'intervention rapide et qui font en ce moment la guerre au Soudan du côté des forces d'intervention rapide. Et ça va tôt ou tard déstabiliser aussi le Tchad, la transition fragile là-bas, mais aussi le Niger.
Alors, les deux parties sont accusées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, notamment d'avoir pris pour cible des civils et des travailleurs humanitaires, d'avoir commis des violences sexuelles contre les femmes et les filles, d'avoir bombardé des endroits résidentiels et pratiqué la torture. Lui comme Ayou, que doit faire la communauté internationale face à telles allégations?
Je crois que la communauté internationale a montré toute son impuissance devant cette crise. D'abord parce qu'il fallait traduire le président déchu, Omar el-Béchir, à la Cour pénale internationale. Il a été renversé, cela fait des années maintenant qu'il a été renversé, mais le traduire à la Cour de justice internationale pour qu'il réponde des crimes qui lui sont reprochés reste aujourd'hui quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour de la part à la fois des deux camps d'ailleurs qui sont aujourd'hui en situation de conflit. D'autre part, on voit bien que dans les conflits, dans l'échelle des conflits qui ont lieu sur la scène internationale, le Soudan n'est pas une grande priorité, même s'il y a eu la réunion de Paris et que d'autres réunions sont annoncées pour venir au chevet du Soudan. Le Soudan reste quand même un parent pauvre de l'assistance internationale et ce n'est peut-être que sur le plan humanitaire que l'on pourrait espérer que les organisations affiliées à l'ONU puissent apporter un soutien direct aux populations sans passer par le gouvernement ou bien les forces d'intervention rapide. Mais dans tous les cas de figure aujourd'hui, faire une intervention militaire au Soudan, au regard de ce qu'il y a eu en Libye, de ce qui se passe au Tchad ou encore de la situation en Érythrée, me semble impossible. Et donc on est dans un cas de figure où on assiste impuissant à l'implosion d'un pays qui jusqu'à présent représentait un grand pays sur la scène à la fois de l'Afrique de l'Est, mais de l'Afrique tout court. C'était l'un des pays les plus grands en termes de superficie du continent africain.
Samantha Lekin, brièvement, quel est l'impact de cette guerre sur les civils, en particulier sur les femmes et les enfants?
Oui, merci. Alors, je pense pour les femmes, les filles et les enfants, ils ont pas les gens qui participent directement à la guerre. Alors, pour eux, c'est vraiment mauvais. Alors, oui, il y a les crimes les crimes contre les humains. On a en vue la violence sexuelle, aussi la viol des femmes, mais c'est pas une tactique, de continuer la guerre. Alors pour eux, c'est vraiment mauvais et ça va avoir les impacts qui va continuer après tout, même si s'il y a une cesser le feu ou bien s'il y a une négociation comme ça, les filles et les femmes et aussi les enfants, il va continuer d'être traumatisé et aussi être fâché, frustré, etc. Et ça va être les mauvaises conséquences dans la société, mais aussi dans la région, comme mon collègue a dit.
Et il y a des ONG qui ont également parlé de l'utilisation d'enfants dans ce conflit. Suleiman Baldo, lui comme Aliou en parlait tout à l'heure, de nombreux Soudanais estiment que les deux généraux en guerre ont volé la révolution du peuple. Le soulèvement populaire qui a fait chuter le régime islamo-militaire du dictateur Omar el-Béchir en 2019. Ce rêve de changement au Soudan est-il effectivement parti en fumée ?
Certainement pas. Si on regarde les jeunes, la génération des jeunes Soudanais, femmes et garçons qui ont mené la révolution populaire de 2018, où sont-ils maintenant? Bien sûr, ils ont été déplacés comme tout le monde, comme toute la population du Soudan, mais il y a une bonne partie qui continue à travailler sur le terrain dans le domaine humanitaire, en étant les gens qui répondent en premier lieu aux besoins humanitaires de la population. Et donc, ils ont créé des chambres d'intervention d'urgence, comme cela s'appelle, Emergency Response Rooms, par quartier, par ville, par village, pour, par exemple, fournir de la nourriture aux populations coupées de tout accès à la nourriture, pour soutenir les cadres de santé dans les hôpitaux qui restent fonctionnants. Il faut rappeler que plus de 80% des hôpitaux du Soudan ne sont plus opérationnels à cause de la guerre. C'est la magnitude de destruction qui a lieu au Soudan maintenant. Et ce sont les gens de la révolution qui sont en train de mener la réponse à cette catastrophe de l'absence totale de l'État. Et donc, c'est la force vive de la société soudanaise, c'est les aspirations à la démocratie, aux droits de l'homme et, disons, à l'état de droit qui fait agir ces gens-là et qui va, en fin de compte, triompher de toutes ces tendances pour faire retourner la dictature des mouvements islamistes derrière le régime de Béchir, qui est sur la force principale derrière cette catastrophe de la guerre actuelle au Soudan.
Chers invités, restez avec nous. Sans plus tarder, deux commentaires tirés de la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad, la communauté internationale est restée sourde aux cris des pauvres civils soudanais qui meurent dans la douleur. Les soutiens des belligérants doivent aussi mettre à l'aspect humanitaire au cœur de leur engagement. Et Charles Bazema de Ouagadougou au Burkina Faso, à mon avis, ces deux généraux doivent comprendre que le Soudan ne leur appartient pas et il est temps que ça s'arrête. Et voilà pour ces deux commentaires tirés de la page Facebook de VOA Afrique. S'il vous plaît, allez-nous par ailleurs à la suite du Washington Forum. Ce sera après cette courte pause. Merci.
Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Jacques Jean-Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum, édition du jeudi 18 avril 2024. Gros plan sur le Soudan, une conférence internationale tenue à Paris lundi dernier a engrangé plus de 2 milliards de dollars de financement pour ce pays où la guerre a débuté le 15 avril 2023 entre l'armée et les forces de soutien rapide. Elle a fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 8,5 millions de personnes, d'après l'ONU. Washington a évoqué avant-hier une reprise des pourparlers dans les 3 semaines à Jeddah, l'Égypte, les Émirats, l'IGAD, le bloc régional d'Afrique de l'Est, et l'Union africaine, son partenaire, pour faciliter le dialogue, selon Tom Perriello du département d'État américain. Les États-Unis et l'Arabie saoudite ont déjà parrainé plusieurs cycles de négociations sans succès. D'emblée, nous retrouvons nos invités, Souleyman Baldo, directeur exécutif du Sudan Transparency and Policy Tracker. Il nous rejoint de l'État américain, du New Jersey, depuis le studio de la VOA à New York, la chercheuse Samantha Lekin, qui s'intéresse notamment au domaine de la justice internationale et aux affaires africaines. Et en direct de Lomé, la capitale togolaise, Louis Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine et directeur de la chaîne de télévision New World Economy. Souleyman Baldo, certains observateurs sont d'avis que la communauté internationale ne peut absolument rien faire. Lui en parlait tout à l'heure. La seule possibilité serait une intervention militaire au Soudan, disent-ils. Lui comme Ayou ne partageait pas cet avis. Mais qu'en pensez-vous, Souleyman Baldo?
Il n'y a pas de lieu pour une intervention militaire internationale. Dans le contexte actuel maintenant dans la communauté internationale, il faut se rappeler que c'est une crise humanitaire la plus grande au monde aujourd'hui, une crise des violations massives de droits de l'homme, de droits humanitaires, qui est la plus grande aussi par le nombre des gens affectés, et pourtant le monde semble oublier la crise au Soudan et regarder ailleurs. Et c'est cette négligence-là qui fait que la crise perdure et que la destruction du Soudan et la déstabilisation de sa population continuent en ce moment. Et donc ce qu'on demande de cette communauté internationale, c'est de enfin prêter attention à cette crise massive pour des interventions musclées, de la diplomatie musclée, c'est-à-dire ce n'est pas seulement par invitation à ce forum de dialogue comme le forum de Jeddah facilité par les États-Unis et le Royaume saoudite, mais soutenu par une stratégie internationale coordonnée par tous les pays et les organisations et l'Union européenne, l'Union africaine et ainsi de suite, coordonnée et appliquée pour forcer les belligérants à venir à la table et trouver une solution négociée. C'est oui. Ça la seule issue pratique réaliste.
Sylvain Baldo, rapidement, parce que vous venez de le mentionner, il y a certains qui parlent de guerre oubliée quand on parle de ce conflit au Soudan. Pensez-vous que Gaza et l'Ukraine ont éclipsé le Soudan?
C'est certainement le cas. Et ce n'est pas seulement le Soudan. Si on voit la crise à l'est du Congo, par exemple, ce qui se passe en Éthiopie, au moment où on parle, la guerre se résume en Éthiopie entre le gouvernement fédéral et la région, les milices de la région Amhara, mais aussi entre les Tigréens et pour l'ouest des Tigrés, donc confrontation entre Tigréens et Amhara. Et donc c'est une crise massive dans la région de l'est de la Corne de l'Afrique aussi, et le monde ne fait pas attention aux problèmes de l'Afrique. Et donc, il faut faire pression sur les forces internationales et les organisations onusiennes et l'unité africaine et ainsi de suite, pour que une attention appropriée soit allouée à tous ces problèmes-là.
Lui comme Ayou, quelles mesures les pays voisins et peut-être d'autres et la communauté internationale peuvent-ils prendre pour éviter un embrasement régional?
Moi, je crois que la première solution doit venir des Soudanais eux-mêmes. Il faudrait que les Soudanais montrent qu'ils aiment à la fois leur pays et leur population, et qu'ils ne vont pas continuer de les prendre en otage, comme c'est le cas aujourd'hui, et qu'ils leur permettront de vivre chez eux et de développer leur économie. Cette économie est aujourd'hui pillée par des partenaires qui se présentent comme des amis du pays, mais qui sont en train de le piller, de pratiquer un pillage sans vergogne des ressources du Soudan. On ne va pas les nommer, mais ils se reconnaîtront tous. Et de l'autre côté, je crois que si l'Afrique aujourd'hui s'en remet uniquement aux organisations internationales, je crains malheureusement que ces organisations internationales ne suffisent pas à éteindre les différents foyers d'incendie et de conflits que nous avons. Et nous avons là, dans la Corne de l'Afrique, une zone très sismique en termes de conflits et qui peut exploser à n'importe quel moment. Tous ces pays pris individuellement sont sur des braises, des charbons ardents qui pourraient prendre feu à n'importe quel moment. Qu'on cite le Tchad, qu'on cite le Soudan du Sud, qu'on cite le Soudan, il n'y a pas un seul de ces pays qui se trouve aujourd'hui en situation de calme. Calme serein, ne serait-ce que sur les 6 derniers mois. Et donc, à partir de là, il faudrait qu'on prenne des dispositions au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'IGAD, au niveau des pays d'Afrique de l'Est en général, pour que les armes n'entrent plus, au moins au Soudan, et qu'une fois qu'on a réussi à assécher l'approvisionnement en armes, que les belligérants aillent autour d'une table et qu'ils trouvent une solution. Mais la communauté internationale s'intéressera aux conflits qui sont aujourd'hui dans l'intérêt des 5 pays membres du Conseil de sécurité, des membres permanents, et malheureusement, vu que l'Afrique n'y est pas représentée, c'est à l'Afrique de se prendre en main et de faire que son Conseil de sécurité et de paix montre qu'il existe et qu'il a une valeur, qu'il a une importance dans la résolution des conflits en Afrique.
En deux mots, si vous pouvez, Samantha Lekin, y a-t-il des preuves de l'efficacité des sanctions internationales imposées aux belligérants?
Alors, selon moi, je pense que les sanctions économiques, c'est bon, c'est un bon commencement. Mais dans les crises complexes humanitaires, je pense qu'il y a... La communauté internationale doit premièrement sécuriser l'aide humanitaire pour les gens ordinaires, parce que la traîne, la haine, tout ça, ça va continuer d'escalader s'il n'y a pas l'aide directement. Après ça, pour la communauté internationale et aussi les sanctions, ça, comme j'ai dit, on doit trouver une phase de vraiment, je vais dire, forcer des gens de venir aux tables pour négocier. Ouais. Parce que les gens, avec les pouvoirs, si rien change, les sanctions, ça va être OK, mais c'est pas suffisant pour les crises complexes humanitaires. On a vu ça avant à Soudan, même si après 20 ans, on a la continuation des cycles de violence. Alors pour moi, ça va, mais c'est un effort qui doit être milieu, ouais, exactement, différents niveaux différents.
Le temps file malheureusement. Suleiman Baldouf, la question est vaste, mais quelle est d'après vous la voie la plus plausible vers la paix et la stabilité pour le Soudan dans les mois à venir, pour ne pas dire dans les années à venir?
Je vois que la voie la plus efficace qui peut avoir un impact sur la situation, c'est le développement donc d'une stratégie intégrée de toutes les interventions diplomatiques qui maintenant sont en train de se faire la concurrence et de s'ignorer du côté de l'EGAD, de l'Union africaine, dans le forum du Jeddah par l'Arabie saoudite et les Américains, mais aussi les efforts des Troïkas de l'Union européenne. Tous ces gens-là doivent vraiment avoir une coordination.
Voilà. Voilà le temps file, comme je le disais. Point final à ce numéro de Washington Forum. Un grand merci à nos trois invités, Samantha Lekin, Lima Gloire Kemayou et Suleiman Baldouf. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à toutes nos radios et télé partenaires. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Nouveau rendez-vous avec Washington Forum dès jeudi prochain. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous dis à très bientôt.